Bonjour à tout le monde. Je suis Gisèle de Montargis et avec votre émission sur l'écoféminisme, je pense qu'on a la clé des gens au pouvoir puisque, en fait, ça recoupe tous les idéaux des gens de la commune, les communeux et pas les communards comme les appellent les Versaillais. Et on est au 150e anniversaire de la Commune, dont la commémoration a été refusée par Macron au profit de Napoléon. Rappel, la Commune a essayé de dénapoléoniser la France à cause de Napoléon III, Napoléon Ier, l'esclavage, etc., etc. Et puis les mesures épouvantables et drastiques de police. Merci, au revoir.
Bonjour la Terre au carré. Jean de Quimper dans le Finistère. Je voulais inviter les auditeurs France Inter à regarder la vidéo sur YouTube ou Facebook de la chaîne Partager c'est sympa, qui s'intitule « Enquête, la forêt française est en danger ». 20 minutes d'informations vérifiées sur l'industrialisation des forêts françaises et des témoignages poignants, notamment d'agents de l'ONF. Belle journée à tous.
Je m'appelle Claude, j'habite à Grasse, et au sujet du destin de l'ours et du loup, nous avons en région PACA depuis 2005, en plein Mercantour, qui est une zone de pastoralisme, un zoo de loups. Les malheureux n'ont jamais connu la nature. Notez qu'assister au nourrissage vous coûtera 100 euros et 150 euros la nuit pour le frisson. Comment se fait-il que les bergers si prompts à crier aux loups ne font pas fermer ces lieux ? Merci.
Oui, bonjour la Terre au carré. Les chasseurs nous disent souvent que leur activité est une activité de loisir ou un sport. Alors, y a-t-il une activité sportive en France ou de loisir qui disperserait chaque année 6 000 tonnes de plomb dans la nature, dans l'environnement? 6 000 tonnes de plomb, hein, c'est quand même 136 semi-remorques de 44 tonnes. Et ça commence à représenter, hein, sa cause, hein, 136 semi-remorques. Cette pollution doit cesser. Le saturnisme, ils doivent connaître. Quand ils plombent des volailles ou des petits lapins, ils retirent bien les plombs, les chasseurs, là, ils les avalent pas quand même, ils savent que c'est toxique pour eux. Donc ce serait bien qu'ils fassent ça pour notre grande nature aussi. Allez, salut.
Oui, bonjour la Terre au carré, merci pour vos émissions. Je vous appelle de Christchurch en Nouvelle-Zélande, à Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Il y a beaucoup de problèmes environnementaux ici aussi. On a malheureusement une industrie agricole qui détruit les rivières avec les nitrates, la pollution aux nitrates. On a beaucoup de problèmes aussi de déforestation et de perte de la biodiversité native, des oiseaux notamment. Et aussi dans l'environnement marin, on a donc une politique un peu d'autruche qui consiste à ne pas considérer l'environnement marin de la bonne manière. Et donc on n'a que 0,4% des eaux qui sont protégées, avec aussi beaucoup de menaces liées à la pêche et notamment pour les espèces endémiques comme le dauphin Maui et aussi les manchots. Il y a pas mal de manchots en Nouvelle-Zélande, donc voilà. Je vous invite à suivre notre travail, bluecradle.org. J'ai monté une association et on fait de l'éducation aux océans. Et vive les océans. Merci beaucoup.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Il est à la biodiversité ce que le GIEC est au climat. Son nom est l'IBES. C'est un organisme qui coordonne l'expertise scientifique mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques. En 2019, vous en souvenez certainement, son rapport global d'évaluation avait alerté le monde sur le rythme dramatique de l'extinction des espèces et sur la dégradation des écosystèmes. Et puis en juin dernier, pour la première fois, l'IBES et le GIEC menaient un travail commun sur les liens entre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Une première collaboration très remarquée et une façon de mettre les enjeux de la biodiversité sur un même plan que le climat. À la tête de l'IBES et à l'origine de sa création se trouve une spécialiste de l'écologie et une combattante de la biodiversité. Elle est notre invitée cet après-midi, Anne-Larry Gaudry. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est donc vous qui êtes à l'origine de cette plateforme, qui est, comme je le disais, considérée comme le GIEC de la biodiversité. Vous allez nous expliquer quelles sont les missions de l'IBES et puis vous nous raconterez comment, après une thèse en biologie moléculaire végétale, vous avez pris un tournant vers la conservation. Et puis bien sûr, vous répondrez répondrai aux questions des auditrices et des auditeurs qui nous rejoignent sur la page de la Terre au Carré, sur les réseaux sociaux et sur l'application France Inter avec les notes vocales. 14h30, Camille passe au vert. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et tout de vert vêtu pour nous parler de...
Il était une fois Derek the Snow Goose, une oie des neiges, mascotte du port de Watchet en Angleterre, au destin tragique, ouais, comme beaucoup de stars.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Charles de Silia, préparée par Anna Massardi avec Selim Guéribi à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Lorsque tout devient identique, plus rien n'a de valeur. Bonjour. Le chat miaule, la chouette ulule et le cougar, c'est tu. En 2011, ce puma de l'Est américain avait totalement disparu de la surface du globe. Et il n'est pas le seul. Entre 1970 et 2010, plus de la moitié des espèces vertébrées de la planète se sont éteintes. Mais pas d'inquiétude, ce n'est pas la première fois. Depuis que la vie est apparue sur Terre, 5 grandes extinctions ont rayé de la carte la majeure partie des êtres vivants. Cela dit, ce n'est pas si courant non plus. La dernière date de 65 millions d'années. Mais revenons vers les humains. Avant l'apparition de l'homme, le rythme d'extinction était de une espèce par million et par an. Aujourd'hui, il atteint 100, voire 1000 espèces par million et par an. Une variété de grenouilles sur trois est menacée, tout comme l'intégralité des hippopotames, gibbons, tapirs, dauphins d'eau douce, lamantins. Au total, d'après l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur les 76 000 espèces qu'elle surveille, près de 30% sont en danger.
Voilà, c'était Data Gueule en février 2015 sur les extinctions de masse. Anne Larigauderi pour ouvrir donc cette discussion avec vous. Alors en 6 ans, les choses ont encore évolué, pas forcément dans le bon sens d'ailleurs, on va le voir ensemble tout à l'heure. On évoquera aussi cette fameuse 6e extinction, voir si réellement nous sommes dans une situation qui ressemble à celle d'il y a 65 millions d'années ou pas du tout. S'il faut prendre beaucoup de précautions sur l'emploi justement de ce terme, vous qui êtes la secrétaire exécutive de l'IGBES. Alors c'est l'occasion de faire connaissance avec vous et puis aussi avec cette institution onusienne qui ressemble donc beaucoup au GIEC, mais pour la biodive, c'est ça qu'on peut le résumer comme ça ?
Oui, tout à fait. L'IGBES, lors de sa création, s'est vraiment fortement inspiré du GIEC, puisque lors du lancement des deux grandes conventions en 1992 au sommet de la Terre à Rio, donc la convention climat et la convention biodiversité, la convention climat avait déjà le GIEC, donc ouais, elle a pu immédiatement bénéficier d'avis scientifiques pour accompagner et informer ses travaux, alors que pour la biodiversité, ça n'était pas du tout le cas, et il a fallu attendre presque 30 ans pour pouvoir bénéficier, ouais, d'une plateforme identique à celle du GIEC, mais c'est chose faite, ouais, depuis 2014.
Avec du coup la biodiversité qui a toujours été un petit peu à la traîne par rapport au climat, c'est ça ?
Un petit peu à la traîne exactement, parce que alors on dispose beaucoup de connaissances, mais pas de mécanismes pour pouvoir synthétiser, évaluer l'état des connaissances et puis les donner sous forme synthétique, si vous voulez, aux décideurs. Donc c'est ce que fait l'IBES, et voilà, on n'avait pas ça jusqu'à maintenant.
Donc c'est compiler la littérature scientifique, la connaissance, hein, pour justement en informer les décideurs et les états du monde entier.
Voilà, compiler et puis évaluer exactement, c'est-à-dire dire, ben voilà, là on a suffisamment d'informations pour dire qu'on est certain, ou bien on commence à avoir des pistes mais on n'est pas encore sûr. Donc c'est l'évaluation en plus de la compilation.
Et pour rebondir sur ce que disait Mathieu, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une sorte de hiérarchie où le climat est mis bien plus en avant que la biodiversité, peut-être aussi parce que certaines personnes disent bah, même si telle espèce disparaît, ça ne va pas changer ma vie sans s'en rendre compte, alors que si le climat se réchauffe tel qu'il est en train de le faire, là, il va y avoir des conséquences sur notre vie à nous tous.
Oui, c'est quelque chose auquel on a à faire face, peut-être de moins en moins, mais encore maintenant, en fait, effectivement, les gens ont davantage peur, disons, du climat. Ils se sentent plus concernés, justement, parce qu'on commence à avoir des effets dramatiques avec les inondations, avec les événements météorologiques catastrophiques, en particulier de l'été dernier, mais bien avant, alors que pour la biodiversité, on a encore l'impression que c'est la disparition de quelques espèces charismatiques un peu loin de chez nous. Mais je crois qu'on commence aussi à comprendre que ça n'est pas que ça, qu'il y a des contributions qui sont dues aux êtres vivants, comme la pollinisation ou bien la fertilité des sols, beaucoup de services dont on bénéficie. et qui se font, qu'on obtient grâce aux êtres vivants et que donc on ne peut pas vivre sans ces autres êtres vivants sur la planète.
C'est les fameux services rendus dont on parlera avec vous, hein, qui est un terme d'ailleurs qui est assez discuté aussi au sein de la science. Hein.
Exactement. Nous, à l'IBES, on parle plus de contribution plutôt que de service, justement, pour un petit peu s'éloigner de l'idée que la nature est au service des êtres vivants et pour davantage dire qu'il y a une dimension culturelle également et qu'on reçoit des contributions et non pas des services. C'est un petit peu pour changer un petit peu cet état d'esprit vis-à-vis de la nature.
Et une petite parenthèse sur les noms GIEC, IBES, tout ça c'est moche, c'est des espèces d'acronymes. Pourquoi vous ne trouvez pas des noms un peu plus sexy qui pourraient peut-être un peu plus parler même à l'opinion publique?
C'est une bonne question parce que souvent ce sont des termes qui émergent, comme vous l'avez dit.
Personne ne sait ce que c'est l'IBES, hein, là si on va dans la rue, je pense
non,
que...
Non.
Vous pensez pas essayer de trouver une autre formulation? Ça peut paraître totalement superficiel, mais pas tant que ça.
Non, c'est pas superficiel. Je pense que c'est important. Je pense aussi qu'il faudrait certainement encore 2 ou 3 ans au gouvernement si on devait changer de nom. Donc, c'est vrai qu'on se préoccupe d'autre chose, mais je suis d'accord. C'est pas du tout une question qui est bénigne, mais bon, voilà.
Donc, pour ceux qui nous rejoignent, c'est la plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ouais. Ben, c'est sûr que ça donne un peu une indigestion comme ça.
La plateforme sur la biodiversité, peut-être, pour faire plus court.
Ce serait quoi pour vous?
La plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, peut-être
ça irait. Il y a plus sexy, je pense.
Oui, je suis à votre écoute.
Madame Biodive.
Écoutez, on va demander aux auditeurs s'ils ont des idées à vous soumettre. C'est peut-être le changement qui s'annonce. Ouais. Ça n'a pas 10 ans encore, hein. C'était 2012, c'est
2012,
ça
2012, exactement.
Voilà. Et vous, vous avez été recrutée comme première secrétaire exécutive en 2014. Ouais. Le siège est où?
Le siège est à Bonn, donc en Allemagne.
Ouais. Et votre secteur de départ, vous, c'est la biologie moléculaire. Hein. Vous travailliez sur les plantes, c'est ça, sur les maladies des plantes.
Oui, au départ, j'étais partie sur un DEA à l'époque, ça n'existe plus maintenant, mais l'équivalent d'un master, sur la phytopathologie, donc les maladies des plantes, et puis comment les soigner. Et puis, donc, je suis restée dans ce domaine-là assez peu, en fait. Et puis, j'étais vraiment intéressée davantage par... Les grandes thématiques environnementales qui commencent à émerger. On commençait déjà à parler du changement climatique. Oui. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, très rapidement, je me suis orientée vers une thèse où j'ai travaillé sur l'impact du CO2, donc du dioxyde de carbone, sur la physiologie des plantes. Et donc là, j'étais vraiment au cœur à la fois du changement climatique et puis un tout petit peu de la biodiversité aussi. Oui.
Et donc, la conservation est venue après et tout logiquement, finalement, dans ce parcours?
Oui, alors c'est vrai que quand on regarde avec de la distance, on a l'impression qu'il y a une logique dans tout ça. Au départ, c'était pas vraiment un choix aussi stratégique que ça. J'ai un petit peu suivi mes goûts, on va dire, ce qui m'intéressait davantage. Donc, je suis partie aux États-Unis, j'ai travaillé en Alaska en particulier sur la toundra arctique et l'influence du futur changement climatique sur ces écosystèmes qui sont très fragiles, qui sont riches en carbone. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rapprochée plus des thématiques biodiversité. Donc, c'est un petit peu été mon parcours.
Allez, Anne-Larry Gaudry, vous êtes l'invitée de la Terre au Carré cet après-midi. Et si les auditeurs ont des idées pour renommer l'IBES, c'est bien qu'ils
n'hésitent pas. Le défi est lancé.
J'archive par couleur mes regrets. Dans l'eau des rêves, j'ai cueilli la promesse de l'aube inaccomplie. Les ombres sont en ombre, infécondes, elles se répondent. Les ombres sur moi, inféconde, elle nous répond. L'eau des rêves monte, le noir et blanc s'affrontent. chantant sur mon mot.
Le des hommes, c'était Léonie Pernet sur Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
La biodiversité, au fond, c'est quoi? On parle de trois niveaux de diversité, la diversité génétique, la diversité spécifique et la diversité écologique. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, pour l'avenir des sociétés humaines, c'est de dépasser cette approche. Il ne faut pas voir ça comme un catalogue d'espèces, comme des timbres qui seraient les unes à côté des autres dans un catalogue de timbres. Hein. Ce qui est important, c'est que la biodiversité, c'est une histoire d'interaction. C'est la diversité des formes de vie, oui, mais ce qui, encore une fois, est important, c'est les relations qui s'établissent entre elles, en insistant sur le fait que nous, espèces humaines, nous sommes partie de ces interactions, évidemment.
Voilà, Christophe Aubel, c'est le directeur général délégué à la mobilisation de la Société de l'Office français de la biodiversité en juin dernier pour nous donner une définition de la biodiversité et la compléter avec vous, Anne-Larry Gaudry, qui est secrétaire exécutive de l'IBES. On parle du vivant hein, dans son ensemble, c'est ça qui est important.
Exactement. La biodiversité, c'est un terme qui peut paraître un petit peu barbare peut-être, mais il faut vraiment toujours dire que quand on parle de biodiversité, on parle du monde vivant dans toute sa diversité qui est vraiment absolument immense et vertigineuse.
Et l'homme n'est qu'une petite chose au milieu de tout ça.
L'homme est un parmi 8 millions d'espèces de plantes et d'animaux. Effectivement, une toute petite chose.
Il a tendance à l'oublier parfois, non?
Oui, souvent.
Y compris quand c'est des dirigeants politiques.
Oui. Quand on regarde, par exemple, au niveau, juste pour donner une idée de l'importance maintenant qu'a pris l'être humain au niveau de la planète, si on pesait l'ensemble de tous les mammifères, 96% de ce poids serait constitué d'êtres humains et de tous les animaux nécessaires à l'élevage, donc le bétail.
Pourquoi, selon vous, l'homme a du mal à accepter cette idée qu'il ne fait que partie d'un grand foisonnement, d'un grand arbre du vivant, alors qu'il se met toujours au centre des choses, précisément?
Ça, il faut certainement penser à toutes nos grandes sources d'influence, au niveau religieux peut-être, au niveau philosophique. Il me semble que dans la Bible, on dit que la nature est au service des êtres humains, qu'ils sont là pour l'exploiter, pour la servir. Peut-être qu'il faut aller chercher de ce côté-là. Et puis d'autres côtés également. Mais c'est vrai aussi que quand on va du côté des peuples autochtones et avec lesquels nous travaillons, on en reparlera peut-être, l'approche est complètement différente. Puisque ces peuples se sentent vraiment complètement partie prenante de la nature, alors que nous nous sentons extérieurs. La nature a souvent été considérée comme une ennemie bien longtemps. On a eu peur de la nature qui était source
de fantasmes,
exactement, de danger, de mythes, voilà. Et puis ce n'est que assez récemment, finalement, qu'on a commencé à la voir de manière positive et puis finalement, très récemment, à essayer de la protéger. Donc il y a tout ce bagage culturel et religieux qu'on traîne avec nous depuis longtemps.
Je mentionnais rapidement tout à l'heure les dirigeants politiques. Comment est-ce que vous vous positionnez? Vous êtes une plateforme intergouvernementale, donc déjà, qui vous finance?
Oui.
Et comment est-ce que vous positionnez quand, au mois de janvier dernier, Emmanuel Macron organise un sommet, justement, en collaboration avec vous, et que vous voyez des décisions qui sont publiquement dénoncées par énormément d'associations et de scientifiques. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous êtes un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises?
Alors, au niveau du financement, on est un mécanisme intergouvernemental, c'est-à-dire que les membres de l'IBES, ce sont les gouvernements. On en a presque 140 sur les 190 et quelques qui existent sur la planète. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, ce qui est important de bien préciser, c'est que le rôle de l'IBES, comme celui du GIEC, c'est de fournir des rapports scientifiques sur l'état des connaissances. Donc ça n'est pas d'être prescriptif ou de donner des opinions, des avis vis-à-vis de telle ou telle politique. Voilà, donc c'est un petit peu pour répondre à votre question.
Oui, mais j'imagine que parfois, quand certaines décisions vont à l'encontre des prescriptions, mais des conclusions que vous menez, il devait y avoir une certaine part de frustration peut-être ou
Oui, moi j'ai une opinion personnelle vis-à-vis de ça.
Mais est-ce que vous l'exprimez parfois, étant donné que vous avez accès, en l'occurrence en France, on va dire, à Emmanuel Macron et peut-être à d'autres dirigeants ailleurs en Europe?
De manière générale, non. Ça n'est pas notre rôle de nous exprimer vis-à-vis d'une opinion particulière. Simplement, on va de nouveau réexpliquer, voilà, ce qu'il faut faire, quels sont les derniers résultats de la science qui permettent d'accompagner une prise de décision. Mais ça n'est pas à nous ça n'est pas notre rôle d'intervenir au niveau politique pour juger la prise de position de telle ou telle personne dans tel ou tel pays. Ça serait inextricable.
Mais quand, par exemple, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, vous remet la Légion d'honneur, la semaine dernière, par exemple, effectivement, j'imagine que vous ne pouvez pas non plus vous empêcher de penser à la façon dont on critique aussi l'action gouvernementale par rapport au climat et aussi à la biodiversité.
Oui, bien sûr. De toute façon, l'IBES fournit, encore une fois, des avis scientifiques, l'état des connaissances. Ensuite, on sait très bien que le reste de la bataille pour arriver à gagner sur le front de la biodiversité, c'est une question d'ambition politique, de courage, de volonté. Donc c'est vrai que tous les gouvernements, certains plus que d'autres, ont besoin d'être plus courageux, je dirais, de mieux utiliser les conclusions scientifiques que nos rapports nous fournissent. De la même manière que le GIEC ne prendra jamais la parole pour dire le Brésil a tort, la Chine a raison.
Il faut rester dans la diplomatie.
C'est important. C'est surtout qu'il faut rester dans l'indépendance scientifique pour pouvoir rester crédible.
Il y a des commentaires. Si on prend le Haut Conseil pour le climat, par exemple, qui est indépendant et scientifique, le Haut Conseil pour le climat ne va pas hésiter à dire la France est en retard sur ses objectifs, par exemple. Donc, par exemple, en termes de biodiversité, la France, elle en est où?
Alors, pour l'instant, à l'IBES, on n'a pas fait de rapport par pays, si vous voulez. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Donc, je peux pas vous répondre sur la France vis-à-vis. Et puis, de manière générale, c'est difficile. Il y a tellement de thématiques.
Bon, en tout cas, Sophie sur franceinter.fr nous écrit « Les décisions politiques n'ont jamais été aussi défavorables à la biodiversité dans ce pays ». Et Patrice ajoute « Il y a une fâcheuse dichotomie entre la mise en place de plateformes de protection de la biodiversité et la réalité de terrain. Alors que les dégâts de l'agriculture intensive en particulier sont bien connus, les subventions prévues pour l'agriculture bio protectrice de l'environnement sont largement insuffisantes, voire prédestinées à la baisse ». Là, il parle de la PAC qui va être votée cette semaine, il me semble.
L'agriculture, c'est au centre justement des actions à mener aussi, et ça l'IBES le reconnaît, hein,
complètement,
évidemment.
Oui, complètement. L'agriculture, c'est vraiment le grand secteur qui est à la fois destructeur de biodiversité et qu'on pourrait améliorer pour vraiment gagner sur le front de la biodiversité à bien des niveaux. Alors, comme rappel, l'agriculture, elle occupe un tiers de la surface de la planète, elle absorbe trois quarts des ressources en eau douce de la planète, et puis elle génère, me semble-t-il, un quart des émissions en gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un secteur qui est très important. Elle entre en compétition avec la biodiversité parce que elle prend des territoires qui, du coup, ne sont plus des territoires naturels, d'une part, et puis d'autre part, elle est source de tout un tas de pollution au niveau des engrais, des pesticides.
Est source de solutions aussi. Hein.
Exactement, elle est source de solutions puisque on dispose d'ailleurs de méthodes qui sont connues depuis pas mal de temps. Hein. Alors, d'ailleurs, pour la biodiversité, beaucoup des méthodes dont on dispose, ce ne sont pas des choses nouvelles. Donc pour l'agriculture, ce sont les méthodes de l'agroécologie, donc mieux utiliser des engrais verts, mieux respecter les sols, également mieux respecter les pollinisateurs, ou encore utiliser moins d'engrais, moins de pesticides, c'est très important.
Incise d'actualité, mais là le plan pollinisateur qui vient d'être présenté par le gouvernement est jugé totalement insuffisant et à l'encontre des enjeux.
Oui, alors ce qui est important de voir, là tout à l'heure vous avez parlé des auditeurs qui appellent pour dire voilà, donc c'est exactement la manière dont les choses sont censées se produire, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, on donne les résultats en disant de la science, en disant voilà les options pour l'action, voilà ce qu'il faudrait faire. Donc on informe l'opinion publique et ensuite c'est aux citoyens, à vous, à tous les autres, de se saisir de cette information, d'interpeller les décideurs et puis de voter pour des décideurs qui s'engagent davantage peut-être sur certains sujets. Donc c'est un petit peu comme ça que chacun doit jouer son rôle, si vous voulez.
Vous parliez des peuples autochtones et on parlait d'agriculture. Eh bien, on va relier les deux avec la voix d'une femme. Elle s'appelle Hindou Oumarou Ibrahim, de l'association des femmes Peul et des peuples autochtones du Tchad. Mmh. On l'écoute nous donner quelques conseils, justement.
Les peuples autochtones sont toujours marginalisés dans le monde. On est toujours en dehors du développement qui est dessiné par les États ou par d'autres acteurs du développement. Quand un peul se déplace, il reste deux jours dans un endroit et il part dans un autre. Déjà, les bouses des vaches dans l'écosystème du Sahel, ça permet à la régénération de la nature d'une manière très naturelle sans fertilisant. Et quand on fait le tour, après quelques mois, on revient, on a de l'eau, on a des pâturages gratuites sans qu'on puisse mettre de fertilisant. Et ce mode de vie, c'est pas seulement pour nous, mais aussi pour les glaciers, pour les forêts. Ce sont des écosystèmes qui sont très résistants et qui sont très diverses pour respecter la balance et l'équilibre même de notre nature.
Hindou Oumarou Ibrahim, donc des peuples Peul du Tchad, au micro de France Info, c'était en novembre 2020. On en reparlera tout à l'heure, Anne-Larry Gaudry, mais il y a au moins une reconnaissance aujourd'hui du savoir-faire de ces peuples qui est officiellement reconnu. Et ça, c'est extrêmement important parce que les choses avancent aussi quand même sur ce front-là. Hein.
Exactement. Alors, en tous les cas, au niveau de la biodiversité, ça c'est certain. Mmh. Et puis, quelque chose qui a été très important pour les peuples autochtones du monde entier, c'est que l'évaluation de 2019 que vous avez mentionné tout à l'heure avait reconnu que les peuples autochtones, de manière générale, gèrent la nature qui est sous leur contrôle mieux. Alors évidemment, il y a aussi des problèmes, ils n'échappent pas au changement climatique comme tous les autres et à d'autres problèmes de pollution dont ils ne sont pas responsables, mais malgré tout, ils arrivent à mieux gérer leurs espaces naturels que les autres. Donc ça, c'est important aussi pour eux, pour reconnaître les bienfaits de leurs actions et leurs connaissances.
Allez, on se retrouve dans un instant. D'autres questions et messages pour vous. Anne-Larry Gaudry, vous êtes l'invitée de La Terre au Carré.
France Inter. La Terre au Carré.
14h, quasiment 32, Camille Cronier, on passe au vert.
Et je voudrais aujourd'hui vous raconter l'histoire de Derek, une oie des neiges, une oie blanche qui vit surtout en Arctique, côté Canada, et hiverne sur les côtes californiennes ou québécoises, mais qui a débarqué un jour dans le sud-ouest de l'Angleterre, le Somerset, dans la petite ville portuaire de Watchet. Loretta Wetlore, conseillère du district, nous explique.
Derek est arrivé un jour. Il y a 12 ou 13 ans, personne ne sait exactement comment. On pense qu'elle a perdu, comme on dit, son groupe, ceux qui volent avec, et elle atterrit à Watchet.
Paumée donc, mais débrouillarde, Derek prend ses aises et devient incontournable dans le port. Une mascotte, une célébrité qui se balade de bateau en bateau pour se faire nourrir, la petite maline, ou sort de l'eau faire une petite promenade quand un événement est organisé sur l'esplanade juste à côté. Un sacré personnage, ajoute Loretta Wetlore. Les gens disaient « Oh là là, il y a une oie dans le port » en pensant qu'elle appartenait à quelqu'un. Mais non, c'était une visiteuse sauvage, une visiteuse qui est restée. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi donc le nom Derek pour une oie? Erreur de départ.
Tout le monde pensait que c'était un mâle, mais un jour, elle a eu un problème de santé, elle est allée chez le vétérinaire, et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était une femelle.
Mais le nom Derek est resté. Oie solitaire, qui a même une page sur Facebook, page hommage désormais, parce que oui, et là, c'est le drame, comme dirait l'autre. Derek a disparu, c'était il y a 3 semaines. Loretta Wetlore raconte la scène sur la cale où Derek avait l'habitude de dormir. Il n'y avait plus que quelques plumes et du sang sur le mur, mais rien d'autre. Pas de corps, pas de carcasse, pas de pattes, pas de tête, pas d'ailes. Juste ces quelques plumes. Personne ne sait ce qui s'est passé. Stupeur. Et rumeurs.
Des gens disent avoir vu un renard autour de l'esplanade, donc ça pourrait être un renard qui l'a attaqué. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de reste. Il a tout emporté. Mais d'autres penchent pour une mort naturelle, peut-être, et un animal a ensuite pris le corps. Mais c'est quand même la piste du renard qui est privilégiée.
En tout cas, les 4000 habitants de Watchet sont dévastés à l'image de Karen Scott en charge de la page Facebook de Derek depuis tant d'années.
Personally, it broke my heart when she died. It was a very, very sad day for me, to be fair.
Ça m'a brisé le cœur quand elle est morte, dit-elle. C'était un jour vraiment très triste, elle l'avoue. Derek n'est plus là.
I do miss her.
Elle me manque. On a une webcam sur le port.
And I quite often
et je la regarde assez souvent, encore maintenant. Et je la cherche, alors que je sais qu'elle ne sera pas là.
Alors Karen et d'autres veulent rendre hommage à Derek. Ils veulent un mémorial, parce qu'elle était là depuis plus de 10 ans, donc elle fait partie de l'histoire de Watchet. Donc ils pensent qu'elle devrait avoir quelque chose pour que tout le monde sache que ce n'est pas anodin pour une oie, comme ça, de nous trouver et de rester, explique Karen. Une statue pour Derek, c'est le projet. Une statue sur la cale où elle dormait. Une cagnotte a été lancée.
Ça va coûter 2000 livres. C'est beaucoup d'argent.
Environ 2300 euros. La moitié a déjà été récoltée. Une statue, donc, pour qu'on n'oublie pas Derek, l'oie des neiges, devenue star d'une petite ville anglaise.
She was such a character and we are going to miss her so badly.
C'était vraiment un personnage. Elle va nous manquer terriblement, mais au moins sa mémoire est sauvée.
On va verser une petite larme à cause de vous, Camille Cronier. Voilà, Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr l'histoire de cette oie.
Anne-Larry Gaudry, est-ce que ce genre d'histoires qui font sourire, mais bon, au passage, c'est quand même très triste pour cette pauvre Derek. Est-ce que ça peut contribuer, d'une façon ou d'une autre, à sensibiliser certaines personnes au reste du vivant qui nous entoure?
Bah oui, complètement. Moi, je pense que c'est une histoire qui me touche aussi, parce que je pense que les gens, ils s'identifient. Pour eux, par l'intermédiaire de cette oie, la biodiversité, ça devient vraiment un terme concret. Et puis aussi, ça leur donne l'envie de protéger et peut-être du coup d'aller au-delà et de protéger un petit peu plus leur environnement. Pour eux, c'est un point d'entrée vers des questions plus complexes peut-être sur leur environnement. Donc, c'est une jolie histoire, oui, ça me touche.
Vous auriez pu la croiser en Alaska, alors,
peut-être.
Hein, puisqu'apparemment, elle est plutôt des pays froids. Allez, on se retrouve dans un instant.
Anne-Marie Gaudry,
avec d'autres questions pour vous sur franceinter.fr. Wake Me Up, c'était Falls.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Anne-Larry Gaudry, secrétaire exécutive de l'IPBES, notre invitée. On le disait effectivement tout à l'heure, en 2019, vous avez publié un premier rapport d'évaluation mondiale sur la biodiversité qui avait été très remarqué, puisqu'il révélait donc un taux d'extinction sans précédent des espèces et une dégradation extrêmement rapide de la santé des écosystèmes. À l'époque, vous aviez dit « on touche le fond là ».
Oui, exactement. C'était un rapport qui a vraiment frappé les consciences puisque il montrait vraiment l'état de domination pratiquement totale de la planète par une seule espèce, l'espèce humaine, avec de nombreuses conséquences négatives sur les contributions justement dont on parlait tout à l'heure que les êtres humains obtiennent de la nature et dont leur survie dépendent. Donc
Une fois passé justement la consternation, l'émotion, etc., qu'est-ce qui se passe finalement de ces rapports qui nous saisissent sur l'instant et puis ensuite ?
Eh bien, on peut parler de la COP 15 peut-être. Ce rapport en particulier, il va informer les travaux de la COP 15, mais peut-être avant, on peut dire que ce rapport a quand même ouvert quelques portes. En particulier, le Forum économique de Davos, par exemple, a commencé à parler, c'est-à-dire le monde de l'entreprise a commencé pour la première fois à parler de biodiversité. Et maintenant, on commence vraiment à avoir différents secteurs économiques, le monde de la finance en particulier, mais aussi de la mode, qui commence à revoir les chaînes de production, l'approvisionnement, au travers du prisme de la biodiversité. Donc pour tout ce qui est monde de la mode, c'est des cotons plus durables, le cuir, toutes les ressources naturelles. Et on a vraiment des filières qui sont en cours de changement. Pareil pour les finances, on commence à avoir des portefeuilles d'investissement zéro déforestation. Certains gros investisseurs ne veulent plus financer la destruction de la nature. Donc, il y a quand même eu pas mal de portes qui se sont ouvertes, en plus qui n'existaient pas
c'est
avant.
C'est-à-dire que les entreprises ne font plus attention, enfin, en tout cas, n'annoncent plus ne faire qu'attention à leur empreinte carbone. Elles font également attention à leur empreinte biodiversité.
Exactement.
D'après ce qu'elles déclarent. Parce qu'encore une fois, même dans les exemples que vous venez de donner, vous pouvez, j'imagine, le confirmer, il y a énormément d'annonces, d'effets d'annonces et de greenwashing, comme on dit.
Alors, il y a de ça aussi, mais bon, c'est toujours un début. Et puis après, je pense que ça ouvre quand même des portes. Il y a quand même une tendance forte sur la question de l'empreinte biodiversité, comme vous venez de le dire, aux côtés de l'empreinte carbone pour le climat. Donc,
et la COP 15, c'est en Chine, au printemps.
La COP 15, c'est en Chine, exactement, au mois d'avril de l'année prochaine, reportée plusieurs fois.
Ouais. Ouais. Avec une première partie qui a eu lieu là il y a quelques semaines
voilà,
à peine.
Les enjeux de ce genre de sommet comme une COP 15, c'est quoi ? C'est que les États s'engagent à quoi finalement aujourd'hui d'un point de vue biodiversité ? Qu'est-ce que vous attendez ? Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire des classements un peu des bons élèves de la planète, des pires ou c'est pas votre rôle ?
Alors, disons que pour cette COP 15, elle est importante parce qu'il va y avoir une négociation d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Donc les pays vont entériner le fait que tous les objectifs de 2020, il y avait 20 objectifs à l'échéance de 2020, ils ont tous été ratés. Il n'y en a aucun qui a été tenu. Et donc voilà, maintenant on continue et
vers
on
2030,
s'en donne de nouveau
vers 2030.
Voilà.
Génial, donc on se retrouve pour se dire qu'on a raté et on va se fixer de nouveaux objectifs et peut-être dans 10 ans on se retrouvera pour se dire qu'on a raté.
Alors, tout n'est pas non plus complètement noir parce que c'est vrai qu'aucun de ces objectifs n'a été tenu au niveau global. Mais par contre, il y a beaucoup d'États qui les ont tenus, en tout cas certains, au niveau national. Donc, vous me posiez la question de savoir quel était l'enjeu de ce genre de grand sommet. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer de tirer tous les pays de la planète ensemble vers le haut pour qu'ils se donnent des objectifs qui vont ensuite permettre à ceux qui le veulent, à ceux qui le peuvent, de faire quelque chose et de le faire ensemble. Alors après, c'est toujours difficile de dire, voilà, ce pays-là fait moins bien que cela. Ce qui est important de voir, de plus en plus, pour les questions de biodiversité comme pour le climat d'ailleurs, c'est vraiment la responsabilité collective. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on montre du doigt le Brésil et on a raison de le faire vis-à-vis de la déforestation qui a repris, qui s'est accentuée alors qu'elle commençait à décliner. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que une des raisons pour lesquelles on coupe ces forêts, c'est pour faire de la place pour l'élevage du bétail, pour produire de la viande, en particulier pour le consommateur européen. C'est là qu'on a tous une part de responsabilité, donc il faut vraiment toujours se poser la question en tant que consommateur de l'origine des produits pour ne pas être, sans le savoir,
acteur finalement acteur, du problème.
Voilà, hein. Exactement, voilà.
Alors, on a quelques suggestions de la rigolerie pour remplacer Libbès. Alors, je vous les donne, je ne sais pas si ça vous plaira. Patricia nous fait un truc assez simple, plateforme pour la biodiversité, Plate-Dive. Bon,
Plate-Dive,
voilà. Ouais. Et Quentin, lui, nous fait une autre suggestion, plateforme intergouvernementale pour la biodiversité. Ça fait PIB, nous dit-il, c'est très bien, joli pied de nez au capitalisme responsable de tous ces dérèglements.
Le nouveau PIB, alors.
C'est ça, oui, oui.
Voilà, bon. Ça, c'est les deux que j'ai pour l'instant. Et on a une question, alors, qui n'a rien à voir avec des suggestions de nom, mais Thierry nous vous demande, pourquoi avez-vous reçu votre région, votre légion, pardon, d'honneur? Pourquoi avez-vous reçu votre légion d'honneur et pourquoi l'avoir acceptée, surtout?
Alors pourquoi? Déjà, je l'avais déjà la Légion d'honneur, donc ça c'est le grade au-dessus si vous voulez. Et alors après, on ne reçoit jamais d'explications pour la Légion d'honneur. Voilà, on est nommé, donc c'est pour, j'imagine, l'ensemble de ma contribution aux questions de biodiversité au niveau international. En tout cas, c'est comme ça que je le prends.
Mais pour vous, c'est aussi une reconnaissance de la biodiversité en tant que telle ou pas?
Oui, je pense. Oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit quand j'ai parlé lundi dernier. J'ai dit que je le prenais comme voilà une reconnaissance supplémentaire de la biodiversité qui, je pense, est en train de vraiment
Et quand
monter.
Cet auditeur vous dit pourquoi vous ne l'avez pas refusé, alors par exemple, vous auriez pu le faire ou pas?
Je ne sais pas si on refuse la Légion d'honneur. Je ne suis pas,
c'est déjà arrivé. J'ai pas
suffisamment, comment dire, célèbre ou établie pour que ça ait un sens. Ouais. Je ne suis pas Jean-Paul Sartre.
On a une dernière suggestion sur le nom d'Ibès. Alain nous propose Biodiverse Protect. Il dit c'est plus glamour et plus parlant, peut-être.
Biodiverse Protect, ouais.
Bon. Cachez votre joie, Anne-Marie Gaudry, effectivement. Bon. Alors, les solutions fondées sur la nature, ça c'est important d'en discuter un petit peu tout à l'heure. C'est quelque chose que vous avez mis en avant avec le GIEC, précisément?
Alors, c'est quelque chose qui a été effectivement pris en compte dans le rapport qui a été co-préparé avec le GIEC. C'est un terme qui, en fait, a été établi par l'IUCN, encore un autre acronyme. Et donc, l'idée, c'est de protéger la nature pour obtenir une autre contribution, une autre aide de la nature sur un autre front. Donc là, clairement, pour le climat, l'idée fondamentale, c'est de protéger la nature, les forêts en particulier, pour pouvoir mieux lutter et atténuer le changement climatique.
On va donner un exemple extrait d'Euronews, c'était en juillet 2020, pour des villes européennes, justement, dont Eindhoven, qui met en place des solutions inspirées de la nature dans le cadre d'un projet européen pour faire baisser la température. Il s'agit de mieux gérer les ressources en eau, améliorer la qualité de l'air, on écoute.
Dans le centre-ville d'Eindhoven, c'est très bétonné, donc la tension thermique est très problématique. L'an dernier, Eindhoven a battu le record de la ville la plus chaude des Pays-Bas, avec 41 degrés. Mais parfois, dans des jours comme celui-ci où il pleut, nos rues sont inondées. Et c'est un autre problème très important.
Situé sur un parking souterrain, ce jardin est équipé d'un système de collecte de l'eau de pluie qui sert pour l'arrosage des plantes.
La tension thermique en été est trop forte. On n'est pas habitué à ça aux Pays-Bas. Donc l'environnement n'est pas tellement agréable en été. Mais si on peut mettre plus de plantes et d'arbres, cela aidera à faire baisser la température.
Cette place a totalement changé. L'évolution est radicale. Avant, il n'y avait que des bancs en béton et pas de végétation. Maintenant, c'est magnifique. Je trouve que c'est vraiment important de redonner sa place à la nature dans les villes. On a négligé ça pendant trop longtemps.
Voilà, Anne-Marie Gaudry. Ça peut être ça vraiment un exemple de solution?
Oui, complètement. Ça me parle beaucoup. On parle de créer des espaces verts urbains. Mmh. Ça fait vraiment partie de ces solutions. Alors c'est gagnant-gagnant sur plein de niveaux, comme on l'a vu là, ça permet effectivement de faire baisser la température, ça permet de rendre les gens plus heureux, c'est important, ça permet de les reconnecter avec la nature, certains ne sortent pas des villes, donc la nature vient à eux, ça permet aussi quelquefois d'accroître la sécurité alimentaire, on commence à avoir des jardins sur le dessus des bâtiments, donc ça contribue je pense à l'éducation des gens, à une meilleure protection de la nature, donc tout ça c'est vraiment très bien.
Parmi ceux qui ont refusé la Légion d'honneur, Maupassant, Maurice Ravel, Brigitte Bardot et Irène Frachon. Voilà. Qu'on salue et qu'on embrasse.
Qu'on se le dise.
Un message de Jeanne sur l'application France Inter. Pourquoi ne pas prendre exemple sur ces 8000 agriculteurs hindous qui ont complètement abandonné, nous dit-elle, les pesticides au profit d'une agriculture entièrement bio, traitée avec un mélange de bouse de vache et autres produits naturels. Ça fonctionne, c'est tout simplement revenir vers la logique et l'intelligence de nos ancêtres.
Je crois que c'est même 800 000 Indiens, parce que j'ai vu le reportage. J'ai vu le reportage hier soir.
Oui, 8 000, ça paraît pas beaucoup. Pourquoi qu'est-ce qui empêche finalement Anne-Larry Gaudry de revenir à des pratiques peut-être moins productivistes ou moins profitables, je ne sais pas, mais peut-être meilleures pour la biodiversité.
Ben, je crois que ce qui empêche, c'est peut-être un meilleur accompagnement des agriculteurs pour qu'ils puissent accomplir des transitions vers des modèles de production qui sont plus durables, qui sont plus vers le bio, vers un meilleur traitement. C'est quelque chose que beaucoup aimeraient davantage faire, mais pour lesquels il faudrait qu'ils soient mieux soutenus, mieux accompagnés.
Et là, on va voir la PAC, par exemple, cette semaine, qui va être votée, qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, exactement. Vous avez bien un avis, vous, en tant que scientifique et secrétaire
exécutif. Oui, j'ai un avis, bien sûr. J'aimerais que les choses aillent plus rapidement. J'aimerais qu'on tienne davantage compte des rapports que font l'IBES et le GIEC. J'aimerais que certains des grands enjeux qui n'ont pas été atteints en 2020 soient atteints en 2030, comme une réduction des pesticides. C'est très très important d'arriver, en particulier les néonicotinoïdes pour les pollinisateurs. J'aimerais qu'il y ait ce moratoire qui soit maintenu.
Et on n'y est pas.
Il y a beaucoup de choses. Ouais. Hein, oui, voilà.
Comment vous pesez d'ailleurs, j'imagine que vous êtes beaucoup au niveau européen. Il y a eu la semaine dernière une enquête qui est sortie sur le poids des lobbies, notamment de Monsanto dans le dossier glyphosate. Je rebondis sur les pesticides dont vous parlez. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez à peser, vous, IBES, donc institution, face à des lobbies comme ça?
Encore une fois, on arrive à peser dans la mesure où on peut informer à la fois ceux qui prennent les décisions, mais surtout les opinions publiques qui vont accepter ou ne plus accepter certaines décisions. C'est que comme ça qu'on fait la chose. Nous, on informe les gens.
Ça a été le problème
comme vous, les journalistes.
Ça a été le problème de la COP26. Oui. Est-ce qu'on peut craindre que la COP15 de la biodiversité soit gangrénée également de la même manière?
Ben, il peut toujours effectivement y avoir des objectifs qui soient moins ambitieux que ce qu'on aimerait, c'est certain. Il y a les questions de biodiversité, c'est des questions qui mènent à certains conflits sociaux, des conflits pour le contrôle des terres, des conflits pour d'utilisation des terres, des conflits aussi au niveau d'enjeux économiques. On sait très bien que les pesticides, ce sont des gros enjeux économiques pour certains et pas pour d'autres. Mais donc, c'est vrai que...
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a d'autres questions qui arrivent pour vous sur le site de la Terre au Carré.
Quand j'improvise sur mon piano, quand à ma guise je peux jouer slow, je me balance de la théorie, me contredanse des contre-scies. Quand sous la lune je joue pour toi, toute ma fortune est entre mes doigts. Alors vous pouvez protester, fermez vos portes si ça vous plaît. Moi j'improvise sur mon piano et je me grise du blues en dos. Yeah. Oh,
Faravo tu triba, pribe danda e Quand sur tes lèvres je bois l'amour, je sens la fièvre battre tambour. Tout un orchestre joue pour nous deux. Et par la fenêtre je vois vos yeux qui nous condamnent, mais nous envient. Le ciel vous donne, soyez servis. Alors vous pouvez protester, voilez vos faces congestionnées. On improvise des entrechats, qu'un à sa guise, le jazz est là. Alors vous pouvez préférer minuit chrétien si ça vous plaît. La terre promise est pour bientôt, quand j'improvise sur mon piano. Yeah. La terre promise est pour bientôt, quand j'improvise yeah, sur mon piano.
J'improvise sur mon piano. C'était Jacques Higelin.
France Inter. La Terre au carré.
Anne-Larry Gaudry, secrétaire exécutive de l'IBES, encore avec nous pendant quelques minutes. Comment est-ce qu'on fait pour procéder au chiffrage justement de la biodiversité et savoir surtout qu'on n'en connaît que 20%?
Oui. Alors, au chiffrage, vous voulez parler de la description des espèces, là, en
c'est
l'occurrence.
C'est ça, pour connaître voilà. Le nombre d'espèces.
Hein. Eh bien, il faut faire appel à une discipline qui s'appelle la taxonomie. Et on trouve beaucoup de ces taxonomistes au cœur des muséums d'histoire ouais. naturelle. Et donc, ces taxonomistes vont aller sur le terrain, et puis vont étudier, et puis décrire de nouvelles espèces quand ils rencontrent
mais
de nouvelles espèces.
Mais comment sait-on qu'on n'en connaît que 20%, puisqu'on ne connaît pas le nombre global d'espèces? Ça paraît
alors,
fou quand même.
C'est une extrapolation, ouais. voilà. Et donc, pour l'instant, on connaît, on a décrit à peu près 1,7 million d'espèces. Et alors après, il y a différentes méthodes. Je ne rentrerai pas dans les détails pour arriver à extrapoler le
nombre total. Donc, il y en aurait 10 millions total. En réalité?
Alors, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Certains ouais. ont même dit 100 ou 200 millions. Mais l'IBES avait étudié toutes ces méthodes comparées et avait conclu que, et on pensait qu'on avait à peu ouais. près 8 millions et donc qu'on en connaît. Mais effectivement, c'est un chiffre qui est conservateur. Potentiellement, ouais. il y en a beaucoup plus.
Allez, je vous redonne quelques petites suggestions. Après, c'est terminé. Maud nous propose le GIEB pour le groupe international ouais. d'experts de la biodiversité. Mmh. Daniel, alors un peu plus compliqué, le PIGOUBIOD, plateforme intergouvernementale pour la biodiversité. Frédéric nous dit BIODIV. Effectif et simple. Et on a aussi Biodive Alerte de
le
la part d'Isabelle.
Moi j'aime beaucoup,
c'est
un petit,
vrai.
On dirait un petit animal.
Pigoubiode, c'est vrai.
Pigoubiode, voilà, exactement. Oui.
Jusqu'à quand votre mandat court, Anne-Larry Gaudry, et jusqu'à quand vous comptez être à cette place-là?
mon mandat est renouvelé chaque année. Et puis mes projets.
C'est comme à Radio France, ça tient.
C'est vrai, voilà. en fonction du budget.
Et vous voudriez aller jusqu'à quand? Est-ce qu'à un moment vous voudriez revenir sur le terrain entre guillemets?
J'aimerais bien effectivement revenir sur des projets qui sont un petit peu plus voilà dans le concret, dans le local, après avoir été plus au niveau international, au niveau global. On verra.
Est-ce qu'on peut trouver vos différents rapports sur le site de l'IBES justement? Vous avez une version vulgarisée pour
oui, tout
pour
à
le
fait. Il y a
public,
le résumé à l'intention des décideurs. Donc ouais. ça, c'est une quinzaine de pages dans les 6 langues des Nations ouais. Unies.
Et un rapport qui montrait aussi le lien entre la baisse de biodiversité et l'émergence de maladies
infectieuses. Hein,
infectieuses.
Exactement.
Donc ça,
oui,
en ce moment, c'est tout à fait
oui.
intéressant de pouvoir le relire, en
oui,
tout cas.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Anne-Larry Gaudry, d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré.